Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale. Tristan D'Amour avec moi-même, Kevin Laramé. Tristan, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, on va commencer tout de suite avec la coach de San Jose. OK, on va parler de la victoire, on va parler des buts. Mais premièrement, Hannibal Godoy substitué à la 41e minute pour Fatai Alashi. Fatai Alashi a joué quelques minutes en première demi. C'est resté échauffé 10 minutes environ à la mi-temps. Rentre sur le terrain pour la deuxième demi et le sifflet est automatiquement changement. Oxford pour Alashi. Avant de parler des commentaires de l'entraîneur, j'ai jamais vu rien de tel, Tristan.
C'est vraiment un des moments les plus bizarres que j'ai eu à couvrir. Sincèrement, à travers l'Amérique du Nord, on en parlait.
USL, NASL, j'ai jamais vu ça. Je couvre la USL, NASL depuis longtemps et on n'a jamais vu ça. Là.
J'ai jamais vu ça. J'ai aussi jamais vu le nombre de réactions que ça a eu à travers Twitter. Ça a été incroyable. Le monde se demandait vraiment qu'est-ce qui se passait. Surtout, Fatai Alashi qui joue un gros total de 6 minutes, tous dans la première demi. Et vous irez voir parce qu'il y a des vidéos, et des c'est sûr qu'il y a du monde qui a pris des captures d'écran.
Et si vous lisez sur les lèvres le « What are you doing to me? » C'est ça, on peut lire ça très bien, ce qui veut dire « Qu'est-ce que tu fais à moi? » Mais « Qu'est-ce que tu fais, coach? »
Moi, c'est le regard. Le regard qui se donne, si vous faites pause au bon moment, le regard de Fatai Alashi vis-à-vis Mikael Staré, c'est ça le...
Ouais,
le
exactement. Coach suédois, hein, et un petit peu de background, il a coaché en Diliang Yang en 2015-2016, qui est une équipe de la Chine. Et l'année dernière, 2016-2017, il était entraîneur avec le BK Häcken dans la première division suédoise et a repris l'intérim de l'entraîneur l'année dernière lorsque Dominic Carrier a été congédié. Il y a eu un intérim et a repris l'équipe de San Jose pour le début de la saison cette année.
Ouais. Honnêtement, pour faire un full disclosure de qu'est-ce qui est arrivé, il y a eu un rendez-vous, ben pas un rendez-vous, un rassemblement de joueurs
de San Jose ensemble sur le terrain après le match avec les thérapeutes mais sans le coach.
Qui a duré un bon 5 à 7, même voire 10 minutes. Après, il y a eu un long moment où les joueurs étaient dans le... J'ose croire, là c'est ça reste de spéculation par contre, où les joueurs étaient tous dans le vestiaire. J'ose croire qu'il y a eu quelques mots qui se sont dit là aussi. Et il y a eu aussi un rassemblement avec tout le coaching staff qui a pris, je te dirais, un bon 15 minutes avant qu'on ait mot de quelque chose, de quoi que ce soit. Ça a été très long avant qu'on puisse pouvoir parler à l'entraîneur en question.
Il est sorti environ à 20h, à 22h15, donc environ 10 minutes au moment de l'enregistrement de ceci. Il a resté environ 38 minutes dans le vestiaire. Et durant ce que Tristan mentionnait aussi, durant le rassemblement des entraîneurs aussi, à quelques moments, j'ai remarqué Mikael qui était sorti, était par lui-même avec son téléphone dans l'entrechambre du vestiaire des San Jose.
Oui, donc on était en droit de se poser certaines questions, tu vois où je veux en venir, mais finalement, il est sorti, il a répondu à nos questions et ça se résume à Hannibal Godoy était blessé.
Ou, on ne sait pas, mais selon l'entraîneur, il a demandé 4-5 fois à sortir. Pourtant, ce que nous, on voyait, c'était l'entraîneur qui demandait plus des choses à Hannibal Godoy. Mais selon l'entraîneur Martin Staré, c'était Hannibal Godoy qui a demandé de sortir entre 4 et 5 fois, selon ses propres mots, que vous pourrez entendre en anglais sur l'émission Soccer Today, lundi 10h le matin.
Et deuxièmement, Fatai Alashi aussi était blessé. Ça a été tweeté 37, je pense, une trentaine de minutes après la demi. Donc là, on est en droit de se dire, bon, là, c'était peut-être pas aussi clair que c'était. Selon Staré, c'était clair, c'était quelque chose, il était blessé. Selon Chris Wondolowski, il était aussi blessé, avec qui j'ai pu parler. D'après tout le monde, il est blessé. On lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'il était sur le terrain. S'il était blessé, pourquoi pas juste le faire le garder sur le banc. Il n'est pas pour rentrer de toute façon. Il y a eu peut-être un petit peu de ce qu'on appelle miscommunication, un peu de
mauvaise communication.
Oui, de mauvaise communication. Mais bon, ça, c'est ce qu'on s'est fait dire, nous, les membres des médias. La réalité peut être différente.
Avec nos yeux, nous avons vu, par exemple, Hannibal Godoy quitter le terrain directement, ne pas aller au banc après sa substitution après la 41e minute, se diriger directement vers le tunnel ici à notre gauche et rentrer vers le vestiaire de San Jose. Et lorsque Fatah Alhachi a été substitué, il a été sur le banc. Il y a eu une engueulade avec Martin Starry avant ça. Et quelques minutes plus tard, ensuite qu'il a pris place sur le banc, il a disparu du banc et retraité vers le vestiaire de San Jose aussi. Donc, on vous laisse être le juge de ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est pas aussi clair que les mots qu'on nous a dit. Et je pense que c'est plus près de notre première option que la deuxième.
Oui, ben c'est sûr. Après, bon, nous, on fait que rapporter ce qui est arrivé, ce que tout le monde a vu et ce que le monde nous a dit. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Vous allez pouvoir probablement lire plus amplement dans ce que je vais écrire dans une couple de minutes. Mais reste à voir que c'est du très, très, très bizarre. C'est du très bizarre. Et là, pour offrir un peu de contexte encore, on parle d'une équipe qui est dernière dans l'Ouest. Et la dernière victoire remonte au 12 mai.
7 défaites de suite avant ce soir, donc maintenant 8 défaites de suite pour les Earthquakes de San Jose.
Il y a eu quelques matchs nuls, par contre.
Quelques matchs nuls, bon, mais on parle d'une mauvaise séquence.
Mais ça va de mal en pis pour les Earthquakes qui, pourtant, tu pourrais te dire, bon, on a un Chris Wondolowski devant qui est à 5 buts d'être le meilleur marqueur de l'histoire. On peut pas y offrir quelque chose. Là, c'est juillet. Il va sûrement avoir quelque chose. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'il va avoir un changement de joueur? Est-ce qu'il va avoir un joueur qui va rentrer? Ou est-ce qu'il va avoir un nouvel entraîneur d'ici... on pourrait même se dire, d'ici lundi.
Pour être bien franc, on n'était pas sûr s'il allait avoir un entraîneur ce soir. Après le match, c'était un petit peu le sentiment aussi que toute la situation nous donnait. Mais parlons des vainqueurs, parlons de l'Impact de Montréal. 2-0 pour l'Impact de Montréal, 5 victoires lors des 6 derniers matchs, 5 victoires à la maison. Dans une semaine qu'on a marqué, on a joué 3 matchs en 8 jours, 2 victoires et un match qu'on a perdu à New York, mais New York n'a pas encore perdu à la maison. Semaine positive.
Bon, on va chercher les points contre les équipes contre qui on devrait aller chercher des points du côté de l'Impact de Montréal. New York, ça a toujours été un test. Il y a une personne, de mon souvenir, qui était bon au Yankee Stadium, c'est Laurent Simon, et il ne joue plus. Donc,
il joue encore, mais plus ici.
Ben, il joue plus, oui, il ne joue plus à Montréal. Donc, à mon avis, bon, c'était pas un match qui était prenable pour l'Impact. Là, ici, c'était sur la pelouse derrière, c'était un match qui était prenable. Il fallait faire attention pour pas les sous-estimer, surtout une équipe qui n'a pas gagné en longtemps. Fallait pas donner d'espace à Chris Wondolowski. On n'a pas donné d'espace à Chris Wondolowski. On s'était dit en début de match, est-ce que l'Impact va être un peu plus shaky défensivement avec le retour de Raetala en défense centrale par rapport à Rod Fanny? Ça a été correct, ça a été bien. Evan Bush a été important quand il devait être important. Et Saphir Taider, qui marque encore, c'est son troisième but en 2 matchs à la maison. Pour quelqu'un qui ne devait pas mettre tant de buts que ça, je comprends qu'on ne joue pas les gros chars, mais ça donne des points au compteur, ça donne de l'importance à l'équipe. Après avoir glissé en milieu de semaine, c'est toujours difficile de revenir d'une défaite en milieu de semaine, la mission accomplie.
Ce que je trouve intéressant avec les succès de Taider dans le dernier tiers et surtout dans la boîte, qu'on a pu voir, belle touche premièrement de Taider qui a mené à son but, mais c'est la création tactique. Et vous allez entendre dans les commentaires de Rémi Garde un petit peu plus tard, Rémi Garde mentionnait, oui, on c'était volontaire d'essayer d'isoler un petit peu Saphir Taider, d'enlever un petit peu de pression à Nacho Piatti sur certains mouvements et de créer des courses dans lesquelles, un peu différentes, Rémi Garde parlait que Saphir Taider, des fois, il court très bien. pas toujours au bon endroit. Et nous avons vu depuis deux matchs que ses courses étaient au bon endroit, un petit peu plus axées vers le retour central qui a mené à ses deux buts pour un joueur qui est placé, tout dépendant d'où ses coéquipiers sont, un Piet et un Kroliki qui vont l'aider défensivement. Il y a une certaine liberté maintenant pour s'avancer, être capable de trouver les bons endroits pour trouver une espace et finir.
Exactement. Je trouve qu'il prend énormément de confiance depuis quelque temps. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est vraiment capable de se positionner, de bien, en anglais, tu dis « set yourself up ». Sur le but, il prend le ballon du pied gauche, le ballon fait un bond, il est capable de se retourner, de se positionner pour être capable de le frapper. C'est vraiment impressionnant de voir Safir Taider évoluer en ce moment.
Alors, prochain match pour l'Impact de Montréal, c'est ce mercredi, championnat canadien. Les Whitecaps de Vancouver, les Dessus de Montagne Blanc seront au Stade Saputo pour le premier de deux matchs en deux semaines. J'ai posé la question à Rémi Garde, championnat canadien, de quelle façon l'abordez-vous? Sa réponse, c'est un match comme un autre. Oui, on va essayer de l'aborder avec une certaine fraîcheur et on est dans une bonne séquence présentement en Ligue et de matchs importants. Donc, nous verrons peut-être des décisions un petit peu difficiles côté alignement. Il a quand même mentionné un Rod Fanny qui est alité présentement, qui explique son absence. Rod Fanny était malade, donc c'est qui explique son absence. Et il mentionnait peut-être qu'il sera disponible mercredi. Donc, ça pourrait être intéressant. Mais selon toi, Tristan, comment faut-il aborder ce match de championnat canadien mercredi?
Avec une des plus grosses importances. En ce moment, il y a une équipe qui prend le tournoi du championnat canadien avec le plus d'importance, et c'est le Fury d'Ottawa. Ça donne que cette équipe-là ne vient pas à Montréal pour la demi-finale. Je pense que stratégiquement, le tournoi est prenable pour l'Impact de Montréal. On joue contre une équipe, des Whitecaps de Vancouver qui n'est pas au sommet de sa forme, et on peut se prendre en finale un Toronto FC qui n'est vraiment pas l'ombre de ce qu'il était l'an dernier.
Défaite de 2-0 ce soir. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas le marque final, mais c'était 2-0 pour Orlando contre Toronto. Et pour Toronto, on parle d'une saison oubliée. Toronto ne fera pas les séries. Je vous le mentionne ici en primeur. Ben, avant le match de ce soir, Toronto devait avoir une moyenne de 2 points par match d'ici la fin de la saison pour terminer avec 54 points. 54 points était quand même la limite et la barre psychologique qui donne peut-être accès à une 6e ou 5e place. Après le match de ce soir, on parle de 2.2, ce qu'il faudrait quasiment une victoire tous les matchs pour Toronto d'ici la fin de la saison. Et un certain Greg Vanney et Michael Bradley ont une petite escarmouche verbale après le match. Donc le capitaine de Toronto et l'entraîneur de Toronto ne voient pas les choses de la même manière présentement. Et cela pourrait sonner le glas, comme on pourrait dire en bon français, de Toronto.
Oui, tout à fait. Donc, Arnaud qui gagne. DC United qui gagne aussi contre Vancouver. Donc, Vancouver qui va arriver un peu déstabilisé. Donc, on a aussi un Carl Robinson qui, historiquement, ne prend pas une si grande importance que ça.
Je trouve que tu es même gentil. Parce que, pour être bien honnête, Carl Robinson n'a jamais pris le tournoi de la manière dont Toronto et Montréal l'ont utilisé lors des dernières années pour créer une certaine bonne performance avec des champions.
Oui, tout à fait. Et si on regarde un peu l'Impact de Montréal, on a évidemment, avec le championnat canadien, on a un standard, on a un quota de joueurs minimum canadiens qui doit... c'est trois joueurs minimum qui doit être sur le terrain en tout temps pour l'Impact. Je pense que c'est bien parce que, surtout si on regarde du côté des jeunes, on a Chemie de Chaume qui, tranquillement, Rémi Garde semble bien l'aimer. Deux, semble très bien apprendre de ce qu'il voit sur le terrain des gens comme Ken Kroliki, comme Safir Taider, comme Samuel Piet. Et qui a connu un très bon tournoi de Toulon. Donc, il y a quand même un peu de minutes dans le compteur, sans nécessairement être des minutes avec l'Impact. L'Impact, encore là, c'est un des tournois les plus importants pour l'Impact de Montréal historiquement. Là, c'est prenable pour l'instant. On se doit d'arriver sur les chapeaux de roue. On se doit d'arriver et de performer et de gagner ce tournoi-là parce que, faut se souvenir, le championnat canadien, c'est un trophée, mais c'est aussi la Ligue des champions.
La Coupe des voyageurs, si vous demandez des trophées, et quand on regarde les trophées, il y a un trophée qui est vraiment à la portée de l'Impact présentement. Oui, la MLS Cup, si l'Impact fait les séries, c'est un trophée qui est potentiel. Oh là là. Mais un trophée qui est encore plus potentiel et qui demande 4 matchs. Il reste 4 matchs à l'Impact pour gagner ce trophée. C'est la Coupe des voyageurs. Et historiquement parlant, en regardant Rémi Garde et ses succès dans la Coupe de la Ligue, la Coupe de France en 2011 avec Lyon, je crois qu'il va peut-être pas prioriser le premier match ou le deuxième avec un alignement partant à 100%. Mais il a mentionné Fanny. Donc, si Fanny, c'est correct, c'est mercredi, Fanny débute. Un Piet, un Anthony Jackson-Lemel, Chamit Chaume, je ne serais pas surpris qu'il débute pour les joueurs canadiens. Donc, on parle d'une formation montréalaise qui pourrait être quand même, je dirais pas B, je dirais pas A, mais je dirais B-.
Ce sera aussi intéressant de voir qui sera le gardien partant. Parce que, historiquement, avec l'Impact, dans les dernières années, il y a eu ce qu'on voyait à Barcelone avec un gardien de championnat, un gardien de coupe. Est-ce que je suis en droit de me demander si Jason Beaulieu serait pas le partant?
Faut se ramener au début de la saison lorsque Maxime Crépeau a pris la décision de quitter l'Impact de Montréal. Et une des motivations qu'il a eues pour faire cette décision était lorsque Rémi Garde a mentionné « Maxime, tu ne joueras pas cette année. Tu ne seras pas le gardien de mon championnat canadien non plus. » Donc, si on se retourne à cette décision-là, selon moi, Clément Diop joue mercredi.
Clément Diop, oui, qui est une très bonne réponse à avoir. Mais Clément Diop, j'ai entendu beaucoup de murmures dans travers la saison que l'Impact, c'était pas nécessairement sa place, que peut-être qu'il cherchait quelque chose ailleurs. Bon, pour le premier match, peut-être, mais si on se tourne et peut-être qu'on veut faire reposer un Evan Bush, peut-être.
Pantémis ou James Beaulieu. Donc, Jason Beaulieu et James Pantémis sont les deux autres choix que l'Impact peut avoir pour garder. On va avoir plus de détails là-dessus mercredi. En passant, le championnat canadien en 2018 n'est pas télédiffusé. Sur les plateformes normales, vous allez pouvoir le voir sur le site canadasoccer.com, sur YouTube et sur le yahoosports.ca. Tristan, merci beaucoup.
Plaisir.
Après la pause pour la version balado-diffusion, vous allez avoir les entrevues d'après-match avec Rémi Garde, Samuel Piette qui nous parle de ce tacle de l'arbitre envers son menton, et aussi Rudy Camacho et Nacho Piatti. De retour après la pause. L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde.
Rémi, est-ce qu'on peut dire que les joueurs vont retrouver leur aisance habituelle dans ce que vous avez bâti au cours des dernières semaines?
Oui, parce qu'on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire les 3 points de la victoire. Je suis pas certain que ce soit le meilleur match qu'on ait fait. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Voilà, mais globalement... Dans une semaine à 3 matchs, d'aller rechercher la victoire après la défaite un peu lourde mercredi à New York. Voilà, c'était bien de repartir comme ça, évidemment.
Tanger a connu un fort match, mais est-ce qu'on peut dire que Piatti aussi, je ne sais pas si c'est un message qui a été lancé, mais on le sent beaucoup plus impliqué dans la construction. Il y a déjà sa 8e passe décisive cette année. Est-ce que ça a été une façon, un angle qui a été abordé avec lui, de participer davantage à la construction de l'attaque?
Écoutez, on essaie effectivement de travailler tactiquement avec Saphir, qui est un joueur tellement généreux que parfois il court beaucoup trop, mais pas aux bons endroits. Ça part toujours d'un très bon sentiment, mais voilà, on a travaillé effectivement avec lui pour lui montrer comment il pouvait être plus dangereux, mais pas forcément marquer des buts d'ailleurs, mais être dans la construction, mais plus haut sur le terrain. Et c'est vrai que là, il est dans une passe où... Il conclut le travail, voilà, encore un but une semaine après les deux autres, c'est tout à fait positif.
Alex, t'es un peu dans la même ordre d'idée, quelle évaluation en fait, tu travailles de Matteo Concusu depuis quelques semaines? Bon, même s'il ne marque pas, il semble quand même générer plusieurs occasions avant une belle entente avec Safir et Timasio.
Oui, il est à l'origine du premier but, c'est lui qui passe le ballon à Nacho, dans la surface de réparation, il a été mobile, il a travaillé, peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il avait fait les derniers matchs, mais je l'ai déjà dit, la générosité et l'altruisme dans une équipe, ce sont des qualités très importantes. Parfois on ne réussit pas tout, mais je peux pardonner beaucoup de choses, mais à partir du moment où on fait les efforts pour l'équipe, et Matteo est un joueur généreux, qui n'est pas tout le temps en réussite. Ce soir, il ne l'a pas été encore, mais il a bien participé à la victoire, effectivement.
That's five straight home wins. Every field has a home advantage in New York City. We saw the small field. What do you think gives your team an advantage when they play here? Is it the fans? Is it the...
Probably the fans, of course, because they give us strength and power, of course. But also, I think that we play with more confidence offensively when we play home, and it gave us. More chances, more opportunity. We can hold the ball collectively more easily at home game than compared to away game.
On se souvient tous du début de la saison. On a l'impression que c'est une autre saison complètement. Dans les dernières semaines, ce que vous avez bâti, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre groupe?
Qu'ils aient donné les bonnes réponses. Qu'ils aient donné les bonnes réponses, qu'ils se soient... entraider, mais aussi qu'ils aient fait un peu la police entre eux par moment. Ils se sont pas autogérés, je pense que je les ai jamais laissé faire ça, mais j'avais donné des lignes de conduite. Donc ce qui me rend heureux, c'est qu'on a progressé tous ensemble. Moi j'ai progressé aussi parce que je les connais mieux. Mais eux ont bien répondu à beaucoup d'attentes. Maintenant, la saison n'est pas terminée. On est, encore une fois, je me présente devant vous en disant la même chose que samedi dernier. On est là où on devait être depuis le début, sans doute. Donc maintenant, à nous de rester bien concentrés, de rester très ambitieux et de faire ce qu'il faut pour accrocher les points qui vont nous manquer. Aujourd'hui, je pense qu'on était, on devait pas descendre en dessous de la limite... de ce qui est nécessaire de faire pour gagner un match. Voilà, on s'en est approché, on n'est pas descendu en dessous, mais il a fallu que je tire la sonnette d'alarme à la mi-temps.
Oui. Après une semaine occupée de 3 matchs en 8 jours, comment approchez-vous le premier match de votre championnat canadien, ici mercredi?
Encore un match dans 3 jours, donc on l'aborde avec de la fraîcheur mentale, en fait, parce que c'est une autre compétition qui tient aussi à cœur, évidemment, au club, aux supporters. Maintenant, la compétition là, s'inscrit au cœur de matchs importants aussi en MLS. Donc c'est là où il va falloir sans doute trouver des ressources, peut-être aussi avoir un peu de turnover. Donc on va voir comment on aborde ce match.
Nicolas, c'était la même chose.
Une dernière question, juste concernant la famille qui était en uniforme ce soir. Quelles informations vous pouvez nous donner?
Il était cloué au lit parce qu'il était malade. Voilà, j'espère que ça ira mieux pour le match de mercredi et de samedi prochain. Voilà.
Merci. Le numéro 6 de l'Impact de Montréal, Samuel Piette.
Samuel, le plus gros plaqué du match était
envers toi-même. C'était un bon, je pense qu'il devrait peut-être signer avec les Alouettes en tant que linebacker. Là, sérieux, c'est une bonne acquisition, je pense.
Protocole de commotion pour toi?
Ben, je l'ai dit en blague là, en rentrant dans la salle. J'ai dit, docteur, je pense que. Je suis un peu étourdi, là. Pas moi, le ref, il aurait dû un rouge, mais. Non, c'était. C'est excusé à bref. Puis... Je pense qu'après, moi, je l'accrochais avec ma bouteille. Quand Chris s'est blessé, j'ai dit, je te retourne à Paris.
Samuel, Rémi a parlé du fait qu'il a sonné la sonnette d'alarme à la mi-temps. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui devait changer à ce moment-là?
Ben, je pense qu'on a bien commencé le match. Je pense que les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps n'étaient pas suffisantes pour nous. Je pense qu'on s'est relâché un peu avec l'avance d'un but, avec un but très tôt comme ça. Ils ont eu plusieurs occasions. Je pense que Boucher a fait 2-3 gros arrêts qui nous a gardés dans le match. On les laissait trop rentrer dans la surface. Donc, non, c'était vraiment de qu'on se réveille et qu'on ne laisse pas les choses aller parce qu'on savait que si on pouvait prendre un but contre cette équipe-là, ça pouvait être dangereux. Là.
Qu'est-ce que tu as constaté comme amélioration dans le jeu de Safir Tander depuis quelques semaines?
Ben, je pense qu'il a toujours bien joué. C'est juste qu'il fallait qu'il trouve ses repères. Je pense qu'il joue mieux parce que les joueurs autour de lui jouent mieux aussi. Ça, c'est gros. On sait que Nacho a une petite période. Il joue très bien. Alejandro a trouvé ses repères. Rudy, tout le monde autour de lui font très, très bien. Donc, ça l'aide dans son jeu. Je pense que son jeu est un peu plus vers l'avant. Je pense que quand le ballon est sur le côté, il est plus souvent dans la surface. On l'a vu sur le premier but. Au lieu de toujours essayer de rester derrière pour faire le jeu, je pense qu'on a des joueurs maintenant qui sont capables de faire ça. Je pense que c'est ça le gros changement dans son jeu. La victoire, c'est sûr. Non, je pense que le dernier match contre Colorado, si je prends la maison, c'est un peu deux équipes plus ou moins semblables. En fait, deux équipes de bas de classement.
quand on gagnait, je pense, 2-0 contre Colorado, là, c'est là qu'on s'est relâché. Techniquement, on était moins juste. On a perdu beaucoup de ballons. Tandis qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on était très bien avec la balle jusqu'à la fin. On ne s'est pas mis en danger nous-mêmes. Donc, je pense qu'on s'est amélioré là-dessus. La circulation de balle était beaucoup mieux, beaucoup plus rapide, je pense, surtout en deuxième demi. Non, beaucoup de bons points, encore défensivement. Un blanchissage, un clean sheet, mais c'est gros pour nous, puis il faut baser sur justement les performances défensives qu'on a eu aujourd'hui.
Tu parlais tout à l'heure d'Aleandro, justement, le fait que le côté droit, Aleandro et Ken montent depuis une coupe de match, ça stabilise pas mal tous les aspects du jeu, j'ai l'impression. Là, c'est plus équilibré maintenant.
Ouais, vraiment, on sait que notre côté fort, c'est le côté gauche avec Nacho, mais d'avoir un côté fort, côté droit très très fort aussi, fait en sorte que l'équipe adverse sait plus ou moins où doit fermer les trous. Avant, les autres équipes mettaient 2-3 joueurs sur Nacho, puis on était un peu pris parce qu'à droite, bon, c'était un peu plus compliqué. Là, Leandro a trouvé ses repères, fait très très bien, même on parle de Ken, mais faut pas oublier Chris aussi qui fait un gros travail. Je pense qu'un peu de chasseau quand rentré a très bien fait. Donc, c'est sûr que quand deux joueurs au lieu d'un qui font la job offensivement sur les côtés, ça change beaucoup l'approche de l'autre équipe. Autant important qu'un match aujourd'hui, je pense. C'est sûr que bon, en ce moment, on est dans une bonne période de la saison de la MLS, je parle, dans le championnat, mais là, c'est comme un autre tournoi qui commence. C'est important. Je pense pas que le fait que je suis Canadien est plus important. Je pense qu'on veut le gagner, on veut ramener la Coupe à la maison. Donc, moi, je le vois autant important que le match d'aujourd'hui, puis je pense que les autres joueurs aussi.
Le numéro 4, défenseur central pour l'Impact de Montréal, Rudy Camacho.
On a eu une première un peu compliquée, voilà, on n'était pas très content de nous, le coach non plus. Donc on est revenu avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Voilà, on a eu la chance de marquer en première mi-temps, on a un peu trop géré et on a su tuer le match en deuxième. Donc c'est bien pour l'équipe.
On a assisté à une montée en puissance un peu dans les derniers matchs de la part de Safir Taïda. Qu'est-ce que de ton poste tu as constaté dans son jeu pour les dernières semaines?
Ouais, c'est bien, il se projette plus vers l'avant, on le retrouve beaucoup plus dans la surface. Et voilà, il met les adversaires en difficulté et il arrive à marquer sur les deux derniers matchs, enfin les deux derniers matchs à domicile. Donc c'est bien pour lui et j'espère qu'il va encore monter en puissance.
Ça fait 5 victoires de suite à la maison. Qu'est-ce qui explique ces bons?
Bah, comme je l'ai dit les semaines précédentes, voilà, on a de la confiance à domicile comme à l'extérieur. On engrange de la confiance, on a plus confiance en nous. On trouve un équilibre, voilà. Je ne sais pas ce qui fait qu'on gagne comme ça à domicile, mais il faut que ça continue. Voilà, on est chez nous devant nos supporters et sans encaisser de but en plus, donc c'est bien. J'étais un peu fatigué, mais bon, ça va, on a contrôlé le ballon en deuxième mi-temps, donc j'ai pu un peu me reposer sur certaines actions. Voilà, la France, hein.
Et pour terminer l'émission, le numéro 10 de l'Impact de Montréal, Nacho Piatti, auteur de un but ce soir et d'une passe décisive vers Safir Taïder.
C'est une cinquième victoire de suite à domicile. À quel point présentement vous sentez que vous
pouvez revenir? Oui, c'est bon de gagner ici à la maison. On est bien dans les classements. On sait que Philadelphia et Chicago, on est derrière. Je ne sais pas comment s'est sorti le match aujourd'hui, mais nous, on devait gagner ici pour monter. Et continuer comme ça. Maintenant, il y a des matchs difficiles à Portland, donc il faut porter des points à l'extérieur aussi. Oui, parce que bueno, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je suis avec lui. Et lui, maintenant, il part. C'est difficile quand un joueur part pour son pays, mais c'est comme ça, la vie de football, de soccer, c'est comme ça. Et c'est un bon geste parce que lui a donné beaucoup à Montréal. Et il a joué la finale, 2 finales, donc il a donné beaucoup et nous, on veut remercier à lui.
C'est ton idée, non?
Oui, c'est mon idée du match passé, que Safir fait 2 buts. On n'a pas fait ça, donc cette match, je l'ai dit, on fait. Et on a sorti bien.
Qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui de faire la différence et de profiter de vos occasions?
Non, il faut être tranquille et boucher le ballon parce que c'est une équipe difficile on a joué l'autre fois contre Colorado, tous derrière, et on sait que si on bouge le ballon, on trouve des espaces. Après, quand est arrivé le premier but, c'est plus tranquille, on a joué, après, on a marqué deuxième, c'est mieux.
Est-ce que tu peux rappeler ton but? C'était pas ton tir le plus puissant? Est-ce que c'était le plus puissant que tu avais vu?
Si, non, non, moi j'attendais que le défenseur bouge un peu à sa droite pour tirer, et j'attendais jusqu'à le moment, et tirer et faire but, c'est bon.
Théo n'a pas marqué depuis un certain temps, mais il semble quand même beaucoup t'aider dans ton travail.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait bien?
Non, lui, il fait nous travail pour moi, pour Saphir et pour tout le monde. Lui, il court beaucoup. Et j'espère que lui cherche les buts, mais lui fait beaucoup d'efforts pour nous. Ça, c'est une équipe. Elle marque pas maintenant, mais peut-être dans les playoffs c'est lui qui va marquer. Mais lui, c'est très important pour nous, pour l'équipe.
Merci à Rémi Garde, Samuel Piette, Rudy Camacho et Ignacio Piatti pour leurs commentaires d'après-match après cette victoire de l'Impact de Montréal 2-0 contre le Earthquakes de San Jose. Jusqu'à la prochaine fois, mon nom est Kevin Laramé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @KevLaramé. @sur_transversale et notre page Facebook, facebook.com/sur_la_transversale. Jusqu'à la prochaine fois, bon soccer!